France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Ces précédentes condamnations se comptaient en millions de dollars, cette fois en milliards. Le groupe Bayer Monsanto, propriétaire du désherbant le Roundup, a été condamné cette nuit aux États-Unis à verser plus de 2 milliards de dollars de dommages à un couple d'Américains. Un jury californien a reconnu que le produit à base de pesticides était à l'origine du cancer de ces deux Américains. C'est le troisième jugement consécutif que perd Bayer, qui a racheté Monsanto l'année dernière. Il doit encore faire face à plus de 13 000 actions en justice outre-Atlantique. La Chine avait prévenu, elle réplique. Pékin va imposer des droits de douane sur 60 milliards de dollars de produits américains. Ces surtaxes vont s'appliquer le 1er juin prochain. Elles iront de 5 à 25%. Donald Trump a annoncé qu'il s'entretiendra avec son homologue chinois Xi Jinping lors du sommet du G20. Il se tiendra fin juin au Japon. Un soldat ainsi que 4 manifestants ont été tués hier soir au Soudan lors d'affrontements à Khartoum. De nombreux manifestants ont également été blessés. Le Conseil militaire de transition accuse des groupes armés mécontents des progrès dans les discussions entre militaires et opposition, des groupes armés qui auraient donc tiré sur la foule au Soudan. La France se prépare à rendre hommage aux 2 soldats tués la semaine dernière en libérant des otages dans le nord du Burkina Faso. Les corps de Cédric de Pierre Pont, 33 ans, et d'Alain Bertoncello, 28 ans, ont été rapatriés. La cérémonie doit débuter à Paris tout à l'heure dans la cour des Invalides à 11h. Le public, par ailleurs, est invité à se rendre sur le pont Alexandre III dès 10h pour saluer le convoi funéraire. Des gilets jaunes intermittents se sont invités hier soir à la cérémonie des Molières. Ils dénonçaient les coupes budgétaires pour la culture sous le regard du ministre de la Culture, Franck Riester. Une séquence qui n'a pas été diffusée à la télévision, elle a été coupée au montage. Les Molières du Théâtre français ont notamment récompensé cette année l'humoriste Blanche Gardin et la comédienne Marina Foïs. Et puis après le théâtre, place au cinéma, sous l'œil d'Agnès Varda, star de l'affiche cette année. Le 72e Festival de Cannes débute ce soir.
Tous les jours sur France Culture à 11h, Culture Monde, le magazine sans frontières, Florian Delorme.
À l'occasion de la journée internationale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, le 17 mai prochain, Culture Monde vous propose une série sur les dimensions politiques et géopolitiques de la sexualité. En Europe, où les droits des homosexuels sont au cœur du clivage Est-Ouest et s'imposent dans les élections européennes. En Afrique, où la pénalisation et les violences peinent à reculer. Nous évoquons également les luttes et le militantisme LGBT+, qui s'internationalise, qui s'universalise même. Des sexualités très politiques à retrouver toute cette semaine dans Culture Monde.
Culture Monde, le magazine sans frontières, de lundi à vendredi à 11h et sur franceculture.fr.
Et nous retrouvons Toufik Hakem pour une demi-heure de culture. Il est 6h03 sur France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver en ce mardi 14 mai 2019. Ce soir s'ouvre le Festival de Cannes avec les vampires de Jim Jarmusch. Et nos équipes, avec à leur tête Antoine Guillot, sont déjà arrivées sur place pour nous tenir au courant jour après jour de cette 72e édition et de son riche et alléchant programme. Mais franchement, pas besoin d'aller sur la Côte d'Azur pour célébrer le cinéma. Aujourd'hui, au programme du Réveil culturel, je vous propose l'exposition « Quand Fellini rêvait » de Picasso, de la musique de Nino Rota. L'exposition a lieu à la Cinémathèque française à Paris jusqu'au 28 juillet. Pour nous en parler, l'historienne de l'art Audrey Norcia, la commissaire de l'exposition.
Le Réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Audrey Norcia.
Bonjour Toufik Hakem, merci de votre invitation.
Alors justement, puisqu'on parlait de Cannes, de l'ouverture du festival de Cannes ce soir, Fellini aurait pu y croiser Picasso à Cannes. ou à Paris, ou à Rome, trois villes si présentes dans la carrière et du peintre et du cinéaste, mais finalement, ils se sont jamais croisés, je crois.
Alors, puisque vous parliez de Cannes, il y a eu une rencontre, deux rencontres manquées, puisque Fellini et Picasso se sont retrouvés à Cannes en même temps, en mai 1957, puis en mai 1961. En 57, Fellini est là pour présenter Les Nuits de Cabiria. Le public n'apprécie pas trop ce film, mais Giulietta Masin, à son épouse, reçoit le prix d'interprétation féminine. L'un des soirs durant le festival, il se promène en compagnie de Georges Simenon, qui aperçoit dans la rue Picasso. Et Simenon veut se faire l'intercesseur de Fellini à Picasso, lui propose d'aller à la rencontre du peintre. Malheureusement, à ce moment-là, Picasso est happé par une foule de journalistes et de paparazzi, et donc Fellini ne peut approcher Picasso. Mais il note son regard, des yeux marrons, perçants comme des lasers. 4 ans plus tard, toujours au festival de Cannes, en 1961, Fellini monte les marches à l'ouverture du festival en compagnie de son épouse. L'année précédente, il a reçu la Palme d'Or pour la Dolce Vita, donc en 1960. Il monte ses marches, intimidé, malgré la palme reçue l'année précédente. Et quelques minutes après, Picasso, à son tour, monte les marches. Et c'est une archive de l'INA qui m'a permis de faire donc cette connexion, de révéler donc ainsi au public que Fellini et Picasso ont été dans un même lieu, au même endroit, en même temps.
Mais on ne sait pas s'ils se sont parlé, s'ils se sont rencontrés.
A priori, il n'y a pas eu d'échange parce que certainement Fellini en aurait parlé dans ses interviews qu'il a données par la suite.
Quand Fellini rêvait de Picasso, c'est le titre de cette exposition, c'est quoi? C'est comment Fellini a été inspiré par les tableaux de Picasso, ou comment les deux hommes partageaient les mêmes rêves, les mêmes fantasmes, bien sûr, les femmes, le cirque, si présentes dans l'exposition, on va en parler d'ailleurs, Audrey Norcia, mais à l'origine de cette idée de faire se rencontrer ces deux créateurs.
Ben donc l'origine de cette exposition, ce sont bien les rêves de Fellini. Picasso apparaît à Fellini à 3 reprises au moins, on peut même en noter 5, mais en tout cas 3 reprises qui sont très identifiables, puisque Fellini a rapporté par le dessin ses rêves, où Picasso lui apparaît. Et Picasso se révèle à Fellini dans ses rêves, dans ce monde nocturne très imagé chez Fellini, à des moments où il traverse des crises artistiques et même des dépressions. Donc des moments
Picasso
clés.
À la rescousse, donc.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est Picasso, le grand artiste, l'artiste absolu, le démiurge. C'est ainsi que Fellini envisage Picasso. Picasso est là pour l'aider à avancer dans sa carrière, dans sa carrière artistique, cinématographique, mais aussi dans sa vie personnelle.
Pourquoi dans sa vie personnelle?
Parce qu'il traverse des moments de difficulté, il est pris entre sa vie conjugale, sa vie amoureuse.
Non, vous voulez dire qu'au-delà même de l'artiste, Pablo Picasso, l'homme, représentait un exemple pour Federico Fellini?
Ah oui, à un tout point de vue, tout à fait. C'est Picasso à la fois l'artiste, le grand génie du XXe siècle, celui de toutes les révolutions, mais c'est aussi l'homme. Pablo, celui qui a eu tant d'aventures, tant de conquêtes féminines. Bien entendu, c'est tout ce panel, tous ces visages qui intéressent et qui interpellent Fellini.
Alors, comment résumer ces affinités dans une exposition? Qu'est-ce qu'on y voit, Audrey Norcia, dans cette exposition, quand Fellini rêvait de Picasso?
Alors, on y voit bien entendu beaucoup de femmes. Puisque pour Fellini comme pour Picasso, la femme est l'entité première, l'essence même de leur art. Donc elle est démultipliée sous toutes ses facettes, dans tous ses visages possibles. C'est la femme mère, c'est la femme idéale, la muse, la femme déesse. Dans le cinéma de Fellini, c'est Anita Ekberg, c'est Claudio Cardinale, c'est Anouk Aimée, c'est Giulietta Masin, bien entendu.
Puis est-ce que c'est autant de personnages de femmes qu'on retrouve dans l'œuvre de Picasso?
Oui. Évidemment, oui.
Et qui sont exposés parce qu'il y a des tableaux de Picasso
bien sûr.
Cette exposition.
Il y a des tableaux, il y a des gravures très belles et pour certaines inédites. Donc les composantes féminines, aussi bien félinienne que picassienne, se rencontrent. C'est un univers commun, une sorte de harem où Picasso et Fellini règnent en maître. Il faut le dire ce qui est. Ou parfois aussi la femme peut être menaçante. Et là, ça dérange un peu l'artiste créateur.
Et ça s'exprime comment?
Par des scènes de domptage, par exemple chez Fellini. Où Marcello Mastroianni, qui est le double de Fellini à l'écran, on le sait bien, doit se munir d'un fouet pour dompter toutes ces créatures sublimes, menaçantes, monstrueuses aussi. Et chez Picasso, c'est évidemment l'apparition de la figure du Minotaure.
Quand Fellini rêvait de Picasso, c'est à la Cinémathèque française à Paris-Bercy jusqu'au 28 juillet. Alors l'exposition donne la belle part au livre, le fameux livre des rêves de Fellini. Parce que Fellini dessinait, notait ses rêves.
Tout à fait. Ouais. Donc à partir de 1960, au moment donc où Fellini a rencontré le succès qu'on connaît pour la Dolce Vita, il se sent un tournant de sa carrière. Il veut dire autre chose avec son cinéma. Il veut sortir de la veine néo-réaliste qu'il a mis en scène d'un point de vue cinématographique. Il s'en détache de façon radicale avec la Dolce Vita, mais il veut surtout maintenant, à partir de ce film qui va émerger 8 et demi en 1963, il veut dire autre chose et il veut parler de lui-même, donc sur un mode autobiographique et onirique.
Et introspectif.
Et c'est à partir de là qu'il se met à rêver de Picasso. Donc c'est le premier rêve. Le 22 janvier 1962, donc au moment où Fellini est en train de réfléchir à 8 et demi, il en appelle à Picasso. Et on voit donc Fellini qui est invité à la table de Picasso sur la Côte d'Azur. Giulietta Masina est aussi assise aux côtés de Fellini, donc tout ça dans les rêves, hein, je le rappelle. Et on sait tout ça car Fellini donc retranscrivait ses rêves par le dessin. Et on connaît aujourd'hui tous ses rêves grâce à un volume qui réunit 30 années de rêves et donc de dessins qui s'appelle « Le livre de mes rêves » dont vous parliez tout à l'heure. Et Fellini donc suivait une psychanalyse avec un professeur d'obédience jungienne, le docteur Ernst Bernhardt. Et c'est lui qui l'a incité en fait à retranscrire par le rêve ses dessins parce qu'il savait que Fellini avait un coup de crayon génial puisqu'il a commencé sa carrière comme caricaturiste. Et donc voilà, on entre dans cette de façon un peu indiscrète dans les rêves de Fellini par le dessin et on voit l'apparition de Picasso à 3 reprises par le dessin, mais à 5 reprises au moins, puisque quand on coupe tous les entretiens que Fellini a pu donner au cours de sa carrière, notamment entre les années 80 jusqu'à la fin, jusqu'à sa disparition, il parle très fréquemment de Picasso et Picasso apparaît apparemment au moins 5 fois dans ses rêves.
Et est-ce que l'inverse est vrai? Est-ce que Picasso parlait de Fellini? Est-ce qu'on trouve des documents ou des témoignages qui permettent de nous dire que c'était une admiration réciproque entre les deux artistes, Fellini-Picasso?
Alors, malheureusement ou heureusement, non. Il n'y a pas de...
Pourquoi heureusement? Malheureusement, j'aurais compris, mais pourquoi heureusement?
Parce qu'il y a certainement, dans cette exposition, la part du rêve est importante. Quelque part, qu'ils ne se soient pas rencontrés, c'est peut-être mieux. Dans le sens où...
Mais on ne sait pas si Picasso, par exemple, a vu les films de Fellini.
Alors, on ne sait pas. Mais on sait que Picasso avait un intérêt très prononcé pour le cinéma. Dès son arrivée à Paris, il fréquente les salles de cinéma. Il va voir des films populaires. Il va voir les films de ses amis de l'avant-garde, des courts-métrages, des choses très expérimentales. Et puis, il devient, à partir des années 50, il devient le sujet de films. Le plus connu étant Le Mystère Picasso de Clouzot, qui sort en 56. Et puis, il s'installe sur la Côte d'Azur en 55, à Cannes même, à la Villa La Californie, aux côtés de Jacqueline Groc. Et il est invité au Festival de Cannes. Donc, il voit des films, il voit les films qui lui sont contemporains. On ne peut pas dire avec certitude qu'il a vu des films de Fellini, mais étant un esprit extrêmement curieux, Picasso a peut-être vu du Fellini.
En tout cas, s'il a vu ce film particulier de Fellini, il a dû s'y retrouver, Picasso. Quand Fellini rêvait de Picasso, c'est à la Cinémathèque française à Paris-Bercy jusqu'au 28 juillet. De tous les films de Fellini, Audrey Norcia, il y a bien un film qui a dû émouvoir plus que d'autres Pablo Picasso, parce qu'on retrouve un peu l'univers de Picasso. Il est au centre de cette exposition à la Cinémathèque française de Paris jusqu'au 28 juillet, quand Fellini rêvait de Picasso.
Alors oui, il y a un film qui a certainement pu, qui aurait pu marquer Picasso s'il l'a vu, hein, tout ça reste très hypothétique.
Ouais. Il aurait pu le voir.
C'est le Satyricon de Fellini, où Fellini met en scène une antiquité décadente, en faisant le choix de réaliser des décors, des costumes, notamment les décors sont très importants, selon un mode picassien. C'est-à-dire que Fellini, pour parler de l'Antiquité, va aller puiser dans l'art antique, qu'on connaît, les fresques pompéiennes, la sculpture grecque-romaine, mais il va le faire selon le mode de Picasso, selon son style classique du Picasso des années 20.
Motore,
fai ferma lì dietro.
Gioia, la testa un po' più bassa, un po' più... ecco, guarda qua, sorridi.
Partito!
Vai!
Guarda in alto, Allegra, la testa più alta.
280 terza!
Oh. Viva Goyo!
Ça, c'est un document exceptionnel. Fellini lui-même sur le tournage de son film Satyricon, c'était en 1969. Film effectivement où les deux univers, les deux styles peuvent se mélanger, se compléter.
S'entremêlent, oui, tout à fait. Et on retrouve, donc c'est la première partie de l'exposition qui accueille le visiteur, intitulée Les Voyages Antiques. Et c'est une antiquité rêvée, encore une fois, par Fellini, mais aussi par Picasso. Parce que ces deux artistes ont regardé l'antiquité non pas comme une période historique circonscrite avec un début et une fin, mais comme une façon de parler, de rêver, d'envisager, de fantasmer notre présent à nous, contemporains. Donc ces figures divines, ces femmes très belles, très nobles, tantôt Vénus, tantôt une Ménade, ces faunes, ces satyres, en fait ce ne sont que des personnages du quotidien de Fellini et de Picasso. Et tout ça est très, à mon sens, très, très palpable, très visible dans l'exposition au travers des œuvres de Picasso qui sont montrées en correspondance avec les films, les photographies de plateau de Fellini, du satyricon.
Et même des extraits de films et des costumes
tout
d'ailleurs.
À fait, oui.
Des costumes, des films de Fellini. Quelles sont les toiles de Picasso présentes dans cette exposition quand Fellini rêvait de Picasso?
Alors, il y a des huiles sur toile, il y a des œuvres au dessin, des sanguines, des eaux-fortes, des choses inédites. Et le parti pris a été de couvrir, comment dire, d'embrasser une chronologie assez vaste de Picasso, des années 20 aux années 60, 70 même, puisqu'on a des eaux-fortes de 1971, c'est-à-dire 2 ans avant la mort de Picasso. Et ce sont des eaux-fortes qui traitent du thème de la prostitution des maisons closes. Donc vraiment quelque chose qui taraudait Picasso jusqu'à la fin de son existence, ce désir sexuel. Et donc l'idée est de balayer non seulement le corpus de Picasso, qui est énorme, vaste, comme on le sait, mais aussi d'essayer de coller au plus près au film de Fellini. C'est-à-dire se dire que à ce moment-là, Fellini réalise tel film, qu'est-ce que Picasso a produit, qu'on pourrait mettre en parallèle, où il y a vraiment une affinité qui se crée entre les deux œuvres.
Fellini sous influence de Picasso?
Alors oui, sous influence en quelque sorte, même si il y a un documentaire qui ouvre l'exposition, qui donne la parole à Fellini, dans lequel il dit... est-ce que j'ai été influencée par une vision picassienne est-ce qu'il y a une vision picassienne sur mes films? Dis non, je ne crois pas. Mais l'exposition n'est pas là pour démontrer quelque chose, mais plus pour faire ressentir deux mondes communs, des échanges entre Fellini et Picasso à travers le temps, les espaces, puisqu'ils ne se sont pas rencontrés. Tout ça est de l'ordre du rêve.
Thank you.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Picasso, célébré partout dans les musées, cette année en Méditerranée, y compris par la Cinémathèque française, puisque à Paris, jusqu'au 28 juillet, la Cinémathèque française nous propose l'exposition « Quand Fellini rêvait » de Picasso. Et je suis avec la commissaire de l'exposition ce matin, Audrey Norcia. Et il y a un moment très festif dans cette scène qui rend hommage aux deux artistes, dans cette exposition donc, c'est bien sûr le cirque, le chapiteau, parce que et Fellini et Picasso ont été très intimement liés aux gens du cirque, à la représentation du cirque.
Oui, tout à fait. Le cirque occupe une place centrale dans l'univers créatif, artistique de Fellini Picasso et évidemment dans l'exposition, puisque c'est vraiment la pièce où on peut circuler et se promener d'un endroit à l'autre. C'est central de façon architecturale dans l'exposition, de façon lumineuse aussi, parce qu'on a voulu recréer cette ambiance festive. Fellini et Picasso ont fréquenté le cirque et Fellini dès son enfance. C'est vraiment un monde qui l'a habité, qui s'égrène comme ça de film en film. Et il avait cette phrase très belle, je trouve, qui dit que s'il n'avait pas été réalisateur, il aurait aimé être le directeur d'un grand cirque. Et pour lui, le Studio 5 de Cinecittà n'était autre que ce grand cirque, cette espèce de diffusion d'effervescence permanente, entouré de ses collaborateurs, de ses acteurs, de ses figurants, des techniciens. C'était ce grand cirque et lui, le génial Monsieur Loyal. Et Picasso, de la même façon, alors il travaillait évidemment de façon plus calme, plus intimiste dans son atelier, mais il aimait recevoir des visites de disciples, parfois d'amis. Parfois, il avait besoin de solitude, comme Fellini aussi d'ailleurs. Mais il aimait cet esprit festif, l'esprit burlesque du cirque, les déguisements, la façon de se mettre en scène. Et puis, la bohème, évidemment. Ce sont vraiment des fils qu'on a essayé de tirer dans cette exposition, de démontrer que Fellini et Picasso font partie d'une même famille. Donc cette famille du cirque, de la représentation et du rire.
Malgré la différence d'âge, parce que cette différence d'âge me permet de vous poser cette question, Audrey Norcia, puisque vous venez de dire que Fellini, et c'est vrai, avait déclaré que s'il n'était pas cinéaste, il aurait aimé être directeur d'un cirque. Mais si le cinéma n'était pas là à son époque, j'allais dire pile à son époque, à Fellini, est-ce qu'il n'aurait pas souhaité être peintre, lui qui a commencé à être dessinateur?
Alors en effet, il en parle de façon très récurrente dans ses entretiens. Alors à côté de la passion pour le cirque, qui pour lui est l'essence de l'art, la pantomime, cette espèce d'origine du cirque et de l'art de la scène. À côté de ça, il y a la peinture pour lui. La peinture occupe une place très importante dans son imaginaire. Et c'est pas sans importance qu'il rêve de Picasso. C'est parce que c'est vraiment la peinture est l'autre volet, l'autre aspect de son imaginaire et de sa création. Et il a été fasciné dès son adolescence, il le dit, petit, il réalisait des marionnettes, il modelait des choses, donc il avait déjà ce goût manuel pour la création. Et étant adolescent, il se rêvait peintre. Il se rêvait habitant un atelier avec des modèles, le peintre un peu à la Picasso.
Ça c'est pour Fellini. Est-ce que Picasso, s'il était né quelques années plus tard, il aurait adopté le cinéma comme un art majeur, il aurait fait du cinéma, comme on dit.
Alors, il a fait du cinéma dans le sens où c'est carrément mis en scène, ouais. à travers des photographies. En tant que peintre, il l'a fait. Il l'a fait, c'est aussi un aspect assez original, inédit de l'exposition à la Cinémathèque française. C'est que on sait que Picasso a été l'objet, l'acteur, le sujet de tout un tas de films à partir des années 50. L'exposition montre des extraits de la visite à Picasso de Paul Ezart, du mystère Picasso de Clouzot. Mais ce qu'on sait moins, c'est que Picasso a été co-réalisateur d'un film, d'un court-métrage, commandité par Henri Langlois, avec aux commandes donc Picasso et Frédéric Rossif.
Ah d'accord, c'est une vieille histoire avec la Cinémathèque. Donc.
Exactement, exactement. C'est retour à la maison, retour aux origines pour ainsi dire. Alors malheureusement, cette bobine a disparu. Mais dans le malheur, il y a quand même des choses belles qui en ressortent. Il y a tout un tas de photographies réalisées par Georges Sadoul et par Robert Picot qui étaient sur le tournage de ce petit film, de ce court-métrage qui s'était donc produit à l'atelier de Picasso qui se trouvait alors à Valoris, à son atelier de céramique.
Quand Fellini rêvait de Picasso, c'est à la Cinémathèque française, à Paris, jusqu'au 28 juillet. Est-ce que cette exposition fait partie de ce cycle consacré à Picasso depuis l'année dernière, enfin Picasso en Méditerranée? Plusieurs musées ont trouvé des thèmes pour mettre à l'honneur Pablo Picasso.
Alors de façon détournée, oui. Alors, parce que cette exposition ne s'inscrit pas, pour ainsi dire, dans le cycle organisé par le Musée Picasso Paris, mais la Méditerranée est omniprésente dans l'exposition, puisque c'est un autre lien, évidemment, entre Fellini et Picasso, à travers l'Italie, à travers Rome. Picasso adorait aller se reposer, se revivifier, se revigorer sur la Côte d'Azur, et quand il était à Antibes, il disait qu'il n'y avait que là-bas qu'il avait cette espèce d'invasion dans son esprit des faunes, des satyres, des centaures et des ménades. Donc il y a évidemment, entre l'un et l'autre, un goût partagé pour la Méditerranée, pour l'Antiquité, pour l'archéologie et pour la Dolce Vita.
Voilà, merci beaucoup Audrey Norcia. Je rappelle que vous êtes la commissaire de cette exposition « Quand Fellini rêvait de Picasso ». On se retrouve demain pour parler du Festival de Cannes, cette fois-ci à travers une fiction, une drôle de fiction d'ailleurs. Je serai avec Éric Garandeau. Passez une bonne matinée sur France Culture. Les petits matins continuent.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente Les Langagières, le festival autour de la langue et de son usage. 15 jours pour vivre la langue dans tous ses états. Lecture, concerts, rencontres, un programme à la carte proposé par des poètes, comédiens et musiciens réunis autour d'une passion et d'une fête. Vous n'allez plus savoir où donner de l'oreille. Un seul mot d'ordre, avoir de l'appétit. Les Langagières, du 14 au 25 mai au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Un partenariat France Culture. Inédit, l'ami prodigieuse sur France Culture. L'Italie d'après-guerre dans un quartier populaire de Naples. Deux héroïnes inoubliables. La timide Elena, fascinée par l'aplomb, la révolte de la sauvage Lila. proches, contraires, leurs destins croisés. Suivons-les.
Il faut que tu continues tes études.
J'ai fini.
Si au lieu de réparer les chaussures des autres, tu fabriquais des chaussures neuves.
Traduite dans le monde entier, la saga d'Elena Ferrante, d'une puissance littéraire inédite dans le paysage de la fiction, Amira Khazar dans le rôle de la narratrice.
Je ne suis pas nostalgique de notre enfance. Elle était pleine de violence. C'était la vie. Un point, c'est tout.
Le feuilleton, du 6 au 17 mai à 20h30 et sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Nouvelle condamnation record pour Monsanto. Le fabricant du Roundup doit verser 2 milliards de dollars à un couple d'Américains. Les précisions avec notre correspondant outre-Atlantique dans un instant. En cette matinée, d'hommage en France aux deux soldats tués lors d'une opération au Burkina Faso la semaine dernière. Nous reviendrons sur les missions des forces spéciales françaises et puis sur le fonctionnement du G5 Sahel. Une réunion se tient à Bruxelles aujourd'hui. Enfin, Wall Street plonge en pleine guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. Pékin répond à Washington en augmentant aussi ses droits de douane. Nous y reviendrons dans moins de 10 minutes. Le fabricant du Roundup a donc été condamné hier soir. Condamné à verser 2 milliards de dollars à un couple de retraités californiens. Bayer Monsanto est reconnu coupable par un jury populaire, coupable d'avoir provoqué un cancer qui dure depuis bientôt 10 ans chez chacun des deux plaignants. Un cancer à cause du désherbant Roundup à base de glyphosate, Grégory Phillips.
Alberta et Alva Piliod, respectivement 74 et 76 ans, sont tous les deux atteints d'un cancer du système lymphatique. Durant le procès, qui a duré un mois et demi, le couple a expliqué qu'au milieu des années 70, dans le nord de la Californie, il avait utilisé du désherbant Roundup dans les nombreuses propriétés qu'il achetait et rénovait à l'époque. Or, le jury a estimé que Monsanto n'avait pas prévenu les utilisateurs des dangers potentiels de son produit phare.
On aurait souhaité que Monsanto nous met en garde, que sur l'étiquette, par exemple, ou dans les publicités, il soit écrit « Attention, ce produit peut provoquer un cancer ». Nous, on pensait que c'était très sûr à utiliser. Nous nous battons contre cette maladie depuis 9 ans et c'est à cause du Roundup.
L'an passé, Monsanto avait été condamné à verser 289 millions de dollars à un jardinier californien, Dewayne Johnson, mais la somme avait ensuite été réduite à 78 millions. À chaque fois, Bayer fait appel, affirmant que son produit reste sans danger, mais aux États-Unis, les procès se multiplient. Une dizaine sont prévus cette année et en 2020, et un peu plus de 11 000 procédures contre le Roundup sont en cours.
Dans l'actualité ce matin aussi, cet hommage national rendu à Paris aux Invalides, aux deux commandos de marine tués en opération la semaine dernière, tués alors qu'ils libéraient quatre otages au Burkina Faso, quatre otages dont deux Français. Hier, les honneurs militaires leur ont été rendus lors d'une cérémonie privée. La médaille militaire et la croix de la valeur militaire leur ont été décernées. Aujourd'hui, le président de la République, Emmanuel Macron, va leur remettre la Légion d'honneur. Les forces spéciales françaises comptent 4400 soldats d'élite actuellement. Elles appartiennent aussi bien aux armées de terre, de l'air et à la marine. C'est tout un ensemble de compétences qu'il aurait demandé. Voilà ce qu'explique le général Henri Pinard-Legris. Il préside l'association de soutien à l'armée française.
Ce sont des gens qui font preuve de calme, de sang-froid. Donc il y a une dimension psychologique extrêmement importante, une dimension physique qui est aussi déterminante, hein, une capacité à la résistance. Et puis, bien sûr, la notion de travail en équipe. Il n'y a pas de réussite sans une intégration très forte au sein d'une équipe. Vous pouvez avoir donc des tireurs d'élite, saboteurs, observateurs. Chacun dans son domaine doit être un expert. Il y a peu de pays qui ont vraiment des forces spéciales aussi complètes. Le COS a été créé en juin 92, après la guerre du Golfe. On s'est rendu compte qu'il y avait une insuffisance. On avait quelques unités particulières, mais ce n'était pas un commandement des opérations spéciales pour planifier et conduire les opérations spéciales. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays, donc les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, il y a l'Australie aussi qui a des forces spéciales intéressantes, hein. Mais il y a très peu de pays qui peuvent agir comme ça a été fait, notamment en Afrique ou au Moyen-Orient, etc.
Des propos recueillis par Nathalie Hernandez alors qu'une réunion sur les forces spéciales et plus particulièrement sur le G5 Sahel doit se tenir aujourd'hui à Bruxelles. Seront réunis les ministres des Affaires étrangères et de la Défense de chaque pays, comme un écho donc à la situation au Burkina Faso qui est l'un des pays qui appartient au G5 avec la Mauritanie, le Mali, le Niger et le Tchad. Situation tendue avec de plus en plus d'attaques de djihadistes. Pierre Benazet ce matin nous présente ce G5 Sahel.
Depuis 2017, les pays du G5 Sahel ont entamé la mise en place d'une force militaire qui doit à terme compter 5000 hommes, avec évidemment la mission de lutter contre les terroristes agissant dans la région. Cette force compte pour l'instant 4000 hommes, elle est donc opérationnelle à 80% et malgré plusieurs missions déjà menées, elle a connu des pertes et vu son quartier général malien attaqué. Les pays du G5 Sahel ont reçu une aide européenne substantielle et même si la France a beaucoup soutenu le projet diplomatiquement et militairement, l'UE est désormais pleinement impliquée, une implication financière d'abord avec sur la période 2014-2020 plus de 147 millions d'euros alloués pour la force commune, une implication sécuritaire aussi puisque les opérations européennes de formation et d'entraînement au Mali et au Niger sont appelées à fournir leur soutien. En revanche, les pays de l'Union européenne comptent dire aujourd'hui aux pays du G5 Sahel qu'ils ont à faire leur part, réconciliation et dialogue, fin de l'impunité, dissolution des milices. Si les pays du G5 Sahel appellent les Européens à tenir leurs engagements financiers, les 28 exigent en contrepartie que les réformes nécessaires prennent corps.
À ce propos, le Conseil de défense de l'Union européenne débutera donc ce matin avec le G5 Sahel. Faut-il confier au département le soin d'appliquer ou non la nouvelle réglementation qui fixe la vitesse maximum autorisée à 80 km/h sur les routes secondaires? Matignon hier a tranché. Sur les routes nationales, la vitesse maximale reste 80 km/h. Sur le réseau départemental, en revanche, les présidents de département auront le choix. Le projet de loi orientation des mobilités est discuté à partir d'aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Et puis ce projet-là arrive au Sénat ce mardi, projet de loi Blanquer pour une école de la confiance. Les sénateurs prévoient de réécrire dans les grandes largeurs ce texte. Deux mesures sont notamment critiquées, elles ont cristallisé les inquiétudes. Il s'agit du devoir d'exemplarité des enseignants, une notion morale qui peut susciter la suspicion, argumente une sénatrice socialiste. Et puis il y a la possibilité de regrouper des classes d'un collège et d'une ou plusieurs écoles, une disposition mal rédigée et mal expliquée, disent déjà les sénateurs. Donald Trump souhaite s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping à la fin du mois de juin lors du G20 qui se tiendra au Japon. Déclaration faite hier dans la foulée de nouvelles sanctions chinoises à l'encontre des produits américains. Cela s'inscrit toujours dans le cadre de la guerre commerciale entre les deux pays. Une guerre qui a fait plonger Wall Street hier. Le Dow Jones a terminé en baisse à 2,38%. Les conséquences concrètes pourraient se faire sentir, Pierre-Yves Dugas.
Plus les droits de douanes américains et chinois grimpent, plus le risque de hausse de prix pour les consommateurs américains, le risque de chute des exportations américaines vers la Chine, notamment agricole, augmente. L'économie des États-Unis a certes peu souffert jusqu'à présent des hausses de droits de douane, mais les majorations de surtaxes, l'allongement de la liste des produits touchés vont se faire sentir et freiner l'activité et la croissance. C'est d'ailleurs pourquoi Donald Trump promet 15 milliards de dollars d'aides supplémentaires aux agriculteurs et avoue ne pas encore avoir décidé d'imposer des droits de douane supplémentaires qui couvriraient la totalité des importations américaines venues de Chine. Le président Trump compte rencontrer son homologue chinois fin juin au Japon. Il n'exclut pas que d'ici là les négociations progressent, mais on n'en prend pas le chemin.
Au moins 5 personnes ont été tuées hier soir à Khartoum, la capitale soudanaise. Des heurts ont éclaté après l'annonce d'un accord trouvé entre les représentants de la contestation populaire et les généraux militaires au pouvoir. Des éléments non identifiés qui voulaient saboter les négociations ont participé à ces affrontements. Voilà ce qu'indique le conseil militaire. Au Sri Lanka, le gouvernement a imposé la nuit dernière un couvre-feu national. Il a coupé les réseaux sociaux. Là, c'est à cause de violences anti-musulmans qui ont eu lieu depuis les attentats du 21 avril dernier. Elle ne cesse depuis de se multiplier, sorte de représailles aux attentats qui ont eu lieu à Pâques. Elle visait ces attaques, les hôtels et les églises catholiques. Une taxe sur le kérosène, la Commission européenne le préconise sans en faire part publiquement. C'est le quotidien Le Monde qui l'indiquait hier. L'objectif de cette taxe supplémentaire serait de faire grimper le prix des billets d'avion de 10% en moyenne afin de réduire le nombre de passagers. Une idée qui séduit déjà certains gouvernements de l'Union européenne, Bertrand Galichet.
Jusqu'à présent, en Europe, seule la Suède applique au transport aérien une taxe dite écologique. Depuis plus d'un an, chaque billet d'avion est surtaxé d'un montant de 6 à 39 euros selon la destination au départ d'un aéroport suédois. Depuis, le nombre de passagers a diminué de 5% sur les vols intérieurs. D'autres États de l'Union européenne comme les Pays-Bas et la Belgique se sont prononcés cette année en faveur d'une taxe au niveau européen. Pour l'instant, la France, comme l'Allemagne et la plupart des autres pays d'Europe, se contentent d'appliquer des taxes souvent importantes, mais calculée sur d'autres critères. La Convention de Chicago, ratifiée par la France en 1944, interdit toute fiscalité sur le kérosène pour les vols internationaux. Restent les liaisons intérieures, d'où la proposition de cette étude non publiée de la Commission européenne de taxer le kérosène à hauteur de 33 centimes par litre. Une taxe au niveau européen nécessiterait l'unanimité des États membres. Les pays d'Europe dont le niveau de vie est le moins élevé ou à forte fréquentation touristique pourraient s'y opposer.
C'était Bertrand Galichet. Le temps sera toujours ensoleillé ce mardi avec toutefois une petite instabilité sur la Corse. Les températures vont rester fraîches avec 13 degrés ce matin à Strasbourg, Lille, 14 à Paris et Lyon, entre 18 et 20 degrés près des frontières du Sud. À 6h40, c'est l'heure du Journal des idées. Bonjour Jacques Meunier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Jacques, le procès des époux Balkany pour fraude fiscale et corruption a débuté hier.
Oui, et comme le résume Henri Sequel dans Le Monde, la 32e chambre du tribunal correctionnel de Paris va passer 6 semaines dans un épais brouillard formé de sociétés offshore au Panama et aux Seychelles, de comptes bancaires au Liechtenstein et à Singapour, de fiduciaires suisses et de prête-noms zélés. Un brouillard dans lequel Patrick et Isabelle Balkany ont tenté, selon la justice, de dissimuler aux yeux du fisc une partie de leur patrimoine. Pour les juges chargés de l'instruction, Renaud Van Ruinbeck et Patricia Simon, dans leur ordonnance de 92 pages, les investigations ont été guidées par deux questions. Quelle est l'étendue du patrimoine des époux Balkany? Comment ces avoirs ont-ils été financés? Ce patrimoine, notamment immobilier, est évalué par l'ordonnance de renvoi à 13 millions d'euros au minimum. La presse l'a détaillé, de même que la propension du couple à régler ses dépenses en cash. Mais, pardon, le procès devrait remonter dans le temps pour mettre au jour un système de corruption et de détournement de fonds mis en place à la fin des années 1980, à l'époque où M. Schuller affirme avoir déposé des espèces en Suisse pour le compte de Patrick Balkany, espèces provenant d'entreprises BTP soucieuses de financer le RPR. Le site d'information Les Jours publie une enquête au long cours sur cette affaire. Le troisième épisode revient sur la manière dont Patrick Balkany a mis la main en 1983 sur la ville de Levallois-Perret, un fief communiste, et comment il s'est aussi maintenu aussi longtemps. Clientélisme électoral et coûts immobiliers, la méthode illustre les dérives d'une politique municipale qui concentre toutes les tares de la grande politique corrompue par l'argent. David Servenet et Pierre-Antoine Souchard rappellent que c'est Charles Pasqua qui l'envoie à la conquête de la ville de ses premiers échecs électoraux. Pour le maire communiste, désormais, les 30 glorieuses sont dans le rétroviseur des deux chevaux produites à Levallois-Perret. Le triptyque des décennies à venir s'appelle chômage, immigration, insécurité, l'ancienne du RPR. 1983, c'est aussi l'heure de la revanche d'une droite humiliée après l'élection de François Mitterrand et la vague rose à l'Assemblée nationale. Un à un, les bastions rouges des Hauts-de-Seine tombent aux mains de jeunes chevaux légers du RPR. Mais la campagne de Levallois a coûté cher. À l'époque, aucun texte n'encadre le financement de la vie politique. Au soir de l'élection, Isabelle Balkany aurait lâché devant quelques proches. Maintenant, il va falloir que ça rapporte. À partir de là, un vaste programme immobilier se met en place sur les sites désaffectés d'entreprises comme Citroën. Les familles modestes, les étrangers qui ne votent pas, vont être poussés hors de Levallois pour accueillir sièges sociaux d'entreprises et ménages aux revenus plus élevés. Les premiers sont générateurs d'emplois et d'impôts. Les seconds achètent à Levallois. La suite de la saga, les dessous de table et blanchiment seront l'objet du procès qui s'ouvre. Ailleurs en Europe et près de chez vous, C'est une toute autre histoire qui s'écrit à Prague, aux antipodes de celle de Levallois. Les Tchèques ont manifesté hier pour la troisième fois contre la corruption de leur gouvernement de droite nationaliste, dont le chef, première fortune du pays, est poursuivi pour détournement de fonds européens. Amélie Poinceau a rencontré pour Mediapart le jeune maire de Prague, membre du parti pirate qui prône la transparence en politique, Zdeněk Hřib, inspiré par le mouvement suédois ou islandais. Ce parti européen milite pour une liberté encadrée sur le web, la défense des droits fondamentaux, la protection de la vie privée, la réforme du droit d'auteur et la lutte contre les monopoles. À Prague, comme dans d'autres villes d'Europe centrale, en Pologne et en Slovaquie, où l'élection d'une nouvelle génération de maires contredit les dynamiques autoritaires nationales, le nouvel édile, élu au municipal de novembre dernier, a des projets en matière d'urbanisme vert ou social et d'infrastructures de transport. Il souhaite notamment limiter l'expansion de l'économie numérique du tourisme pratiquée par des plateformes comme Airbnb. Il estime qu'il faut davantage distinguer ce qui relève de l'économie partagée de ce qui relève du business. Pragmatique, il rappelle que le budget alloué par l'État tchèque, qui permet de financer les aménagements urbains, est calculé en fonction du nombre d'habitants de la ville. Notre intérêt, dit-il, n'est donc pas d'avoir des visiteurs de passage, mais bien des résidents permanents. Le maire a les élections européennes en ligne de mire, avec pour son parti pirate l'ambition d'obtenir une deuxième, voire une première position. Le slogan « L'Europe a besoin », car elle a besoin de liberté, de transparence, de richesse, de développement durable et de justice, l'une des revendications, la fin des paradis fiscaux dans l'Union européenne. Vous écoutez France Culture, il est 6h45, bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, les élections de mi-mandat aux Philippines.
Oui, c'était dimanche dernier, c'est mid-term pour le président Rodrigo Duterte qui renforcerait son assise au Parlement et au Sénat selon des résultats non officiels. Ceci malgré ou en raison d'une politique anti-drogue meurtrière qui lui valent des accusations de crimes contre l'humanité. 3 ans après son élection, en tout cas, Duterte incarne en Asie du Sud-Est un autoritarisme réellement populaire. Est-il si solide. On voit ça avec vous, Yves Boquet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone ce matin. Vous êtes professeur de géographie à l'Université de Bourgogne, auteur de L'avenir des Philippines, un archipel dans la mondialisation aux éditions universitaires de Dijon. Alors là, il y avait 18 000 sièges à pourvoir en tout. En sortant du bureau de vote dimanche, Duterte avait revendiqué un référendum sur sa politique. Cette fois-ci, on aurait 94 des bulletins dépouillés par un organisme de contrôle. Duterte serait confirmé, voire plébiscité, puisque il remporterait 9 sur les 12 sièges en jeu pour le Sénat. C'est assez énorme, ça.
Oui, tout à fait. C'est un grand succès pour lui parce qu'aucun des membres du parti du principal groupe d'opposition n'a réussi à passer dans les 12 sénateurs élus.
Oui, c'est ça. Alors, ce Sénat, il y avait donc la moitié des sièges à renouveler. On va revenir dessus, mais plus que ça, encore une fois, selon ces résultats provisoires, mais 94 des bulletins, c'est important. Ce serait même un carton plein pour Duterte et sa famille, non?
Oui, tout à fait, parce que dans sa ville d'origine, à Davao, c'est sa fille qui a été reconduite comme maire. Un de ses fils est vice-maire, et puis l'autre fils a été élu député. Donc là, c'est la famille Duterte qui contrôle complètement la vie politique à Davao.
Oui, et alors, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui, sans avoir encore les résultats?
Aujourd'hui, c'est le Sénat qui est le plus important, parce que les sénateurs sont élus pour une période relativement longue de 6 ans. Ils sont relativement peu nombreux et traditionnellement, le Sénat aux Philippines est un organisme qui a fait un petit peu contrepoids au président. Cette fois-ci, bon, c'est un organisme, le Sénat, qui va être pour le président, puisqu'il a maintenant, il aura une claire majorité au Sénat pour faire passer un certain nombre de réformes très controversées dont il a parlé depuis plusieurs mois.
Et parmi ces sénateurs, il y a ceux que un des sites de médias indépendants appelle les Duterte Boys, notamment voilà, un qui s'appelle Bongo et l'autre de la Rosa. Qui c'est, oui?
Christophe Bongo, c'est un assistant de Duterte depuis des années. C'est quelqu'un qui n'a jamais été élu à quoi que ce soit, qui est simplement un bras droit du président, son homme un petit peu à tout faire, qui a été élu. Également élu pour la première fois, Monsieur de la Rosa, qui était l'ancien chef de la police, qui au début de la présidence de Duterte était en fait responsable de la lutte anti-drogue et qu'on a accusé de couvrir un petit peu tous ces assassinats extra-légaux qui ont eu lieu.
Oui, ces assassinats qui seraient 5281, je crois, voilà, officiellement, selon la police, mais qui seraient sans doute bien plus selon des ONG. Hein. Certains parlent de jusqu'à 20 000 morts. Qu'est-ce que ça implique, alors, la présence de ces deux Duterte Boys, le fait qu'il y ait l'opposition balayée au Sénat? Ça veut dire qu'on aurait un Sénat moins centriste qu'auparavant, comme beaucoup d'observateurs ont dit que ce Sénat était, en gros, l'institution de tempérance?
Voilà, tout à fait. Bon, ça veut dire que, par exemple, le projet de rétablir la peine de mort aux Philippines pourrait passer avec ce nouveau Sénat, hein, qui le Sénat précédent s'y opposait. De même, la campagne antidrogue va se poursuivre. Et puis, bon, l'opposition qui dénonçait un petit peu les relations trop fortes de Duterte avec la Chine, là, cette fois-ci, Duterte va pouvoir continuer son virage politique en direction de la Chine.
Oui, on va redire un mot de la Chine concernant la peine de mort. Alors, elle a été établie, abolie, rétablie, puis réabolie aux Philippines.
Voilà, depuis 87, elle a été abolie, rétablie avec un autre président, à nouveau abolie. Et là, bon, il y a des chances qu'elle revienne. Peine de mort qui, d'ailleurs, est appliquée dans beaucoup de pays de la région, par exemple en Indonésie ou à Singapour.
Oui, et ceci malgré l'opposition d'un certain nombre d'autorités catholiques, comme ça avait
été... Voilà, tout à fait. Bon, alors ce qui est assez surprenant, c'est que l'Église catholique, qui a quand même un poids important aux Philippines, c'est le troisième pays catholique au monde, avec un évêque de Manille qui est un possible futur pape. Bon, l'Église catholique n'a pas réussi à bloquer le président, alors que le président a attaqué très violemment, à la fois le clergé et la foi catholique elle-même,
oui.
En s'en prenant à la Sainte Trinité dans des discours extrêmement brutaux.
Il était question aussi dans la campagne d'abaisser l'âge de la responsabilité pénale de 15 à 12 ans. Qu'est-ce que ça signifie et qu'à quelle place ça a dans la politique?
Disons qu'il y a beaucoup de petites criminalités, beaucoup de gamins qui volent, etc. Donc c'est très très critiqué. Déjà, la responsabilité pénale à 15 ans, c'est relativement jeune. La descendre à 12 ans, ça... Les tenants des droits de l'homme sont absolument horrifiés par cette perspective.
Oui, donc si on analyse un peu les résultats de cette élection, en quelque sorte, on aurait un plébiscite principalement pour cette politique anti-drogue et répressive,
voilà.
c'est un peu ça?
Voilà, tout à fait. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans les élections, il y a aussi les élections législatives. Bon, avec la majorité des 4 députés sur 5 sont élus sur des districts, et il y a un cinquième des députés qui sont élus sur un scrutin de liste à la proportionnelle, et le parti qui est arrivé en tête, c'est un parti qui est un parti anti-crime, qui est arrivé en premier, et un parti anticorruption qui est arrivé quatrième.
Oui, donc deux partis qui sont des partis traditionnellement alliés au PDP Laban de Rodrigo Duterte.
Voilà, tout à fait. Alors dans cette élection parallèle de ce qu'on appelle le parti liste aux Philippines, bon, le parti qui est deuxième, c'est un parti traditionnel d'extrême gauche, qui d'habitude était le premier parti, ce qui permettait, si vous voulez, un petit peu comme... si on garantissait au moins un ou deux sièges à l'extrême gauche. Donc là, ils sont deuxièmes. Et puis le troisième parti, c'est un parti régional. Hein, donc il y a différents lobbies qui sont représentés. Le parti des marins aura également sans doute un ou deux députés. Le parti des femmes en aura un aussi. Hein, donc...
Et des partis dont
le parti anticrime et le parti anticorruption qui ont très bien marché.
Oui, oui.
Sont des partis nouveaux.
Oui, donc de ce point de vue-là, ça continue le carton plein, si on peut dire. De là à dire que ça offre un boulevard pour le deuxième grand projet de Duterte, qui était la réforme constitutionnelle. Pour l'instant, il y a un mandat unique de 6 ans. On dit qu'il voudrait peut-être l'étendre. Est-ce que c'est avéré? Est-ce que désormais un boulevard lui est ouvert?
Alors, la grosse question, c'est de savoir si lui voudrait déjà se représenter. Alors, il a affirmé qu'il ne le ferait pas, qu'il était fatigué, que si quelqu'un prenait sa place, il serait content. Mais en même temps, bon, il préparerait une réforme constitutionnelle qui, effectivement, donnerait au président la possibilité de rester plus longtemps. Le seul président qui soit resté longtemps, c'était Ferdinand Marcos. Et il y a beaucoup de gens qui font des comparaisons avec la dictature de Marcos dans les années 60-70.
Oui. Donc de ce point de vue-là, ce qu'il faut comprendre de cette élection, c'est quoi? C'est que cette politique de la violence, on pourrait dire anti-drogue, loin d'être un frein, c'est au contraire le principal atout et le catalyseur des votes philippins aujourd'hui?
Mais disons, ce que les gens semblent apprécier chez Duterte, c'est que c'est un président qui dit ce qu'il va faire et qui fait ce qu'il a dit qu'il ferait. Hein, c'est un président qui prend les problèmes à bras-le-corps, à la différence du président précédent, Aquino, qui était accusé d'être un président assez paresseux. Duterte, qu'on aime ou qu'on n'aime pas la politique un petit peu brutale, c'est quelqu'un qui fait des choses. Et ça, je crois que dans les commentaires, pas mal de Philippins disent, bon, c'est un président qui est là et qui préside.
Oui, et avec quelle solidité, justement, puisqu'il y a une chose, du moins, qui lui a été beaucoup reprochée à chaque fois qu'il revient dans les sondages d'opinion assez défavorablement. Je crois que 8 Philippins sur 10 sont contre sa politique. C'est la relation avec la Chine, dans laquelle Duterte avait un atout en ayant gagné devant la cour pénale d'arbitrage.
Les Philippines avaient gagné, quelques jours après l'élection de Duterte, les Philippines avait gagné un procès contre la Chine auprès de la Cour d'arbitrage à La Haye.
Et désormais, on se retrouve avec...
N'a rien fait pour valoriser cette victoire juridique. Et en fait, il a laissé plus ou moins les Chinois s'installer davantage sur les îles de la mer de Chine du Sud, les militariser. Et puis en même temps, il a, dans sa politique de grands projets d'infrastructure, il a sollicité un certain nombre de prêts chinois. Des prêts chinois dont les opposants à Duterte disent attention, là, la Chine est en train de mettre la main sur les Philippines. Les Philippines sont en train de conclure des prêts qui vont mettre les Philippines prisonnières de la Chine. Comme d'ailleurs en Malaisie, le premier ministre malaisien, quand il est revenu, a dit bon, j'annule un certain nombre de prêts parce que c'est pas bon pour mon pays.
Oui, là il était question de 24 milliards d'euros d'investissement chinois sur 2 ans. Et effectivement, il y a l'opposition qui a dénoncé ce fameux piège de la dette. Et puis peut-être dernière zone d'ombre pour son mandat, c'est cette question des groupes armés différents. Alors il y a eu un accord qui a été conclu avec le FMLN, Front Moro de Libération Nationale. Un des groupes Mouvement islamique de libération pour la création d'une région autonome dans le sud, mais par contre il y a encore justement ce MLNF et puis le Parti du Peuple, la rébellion marxiste.
Voilà, c'est la NPA qui continue à faire. Bon, c'est un mouvement qui existe depuis 50 ans, un mouvement communiste qui demande, enfin maoïste, qui mène des attaques par-ci par-là dans les plantations, qui fait un petit peu de racket dans les régions rurales et Duterte a décidé de couper tous les ponts avec les leaders de ce mouvement. Il avait essayé de négocier avec eux. Et pour l'instant, c'est au point mort.
Écoutez, ce sera à suivre ces discussions. Effectivement, il avait laissé une ouverture, mais avec le prochain président, avait-il dit. En tout cas, merci pour vos explications ce matin, Yves Bocquet. Je rappelle le titre de votre livre, L'avenir des Philippines, un archipel dans la mondialisation. Bonne journée.
Voilà, merci, bonne journée, au revoir.
Au revoir.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente le film Divorce à l'italienne de Pietro Germi, Oscar du meilleur scénario 1963 en version restaurée 4K. Ferdinando Cefalù, un noble sicilien, est amoureux de sa cousine Angela, mais il est marié à l'insupportable Rosalia et le divorce est illégal en Italie. Plein de ressources, il décide de pousser sa femme dans les bras d'un amant, surprendre l'infidèle et commettre un crime passionnel qui n'entraîne qu'un minimum de peine de prison. Divorce à l'italienne, mercredi 15 mai au cinéma en version restaurée. Un film France Culture.
Chez les 18-25 ans, 3 électeurs sur 4 ne votent pas aux élections européennes.
Je refuse de croire que l'Europe n'intéresse pas les jeunes. C'est juste qu'il faut changer la manière dont on en parle.
La journaliste Cécile de Kervas-Doué nous propose de porter la voix des jeunes électeurs.
La rédaction de France Culture part à la rencontre de ces jeunes européens. Leurs idées reçues sur l'Europe, leurs thèmes favoris, leurs habitudes numériques. Les journalistes se glissent dans la peau d'un jeune de 20 ans sur Instagram et vous font découvrir l'Europe à travers leurs yeux, leurs mots et leurs voix. 4 semaines thématiques, emploi, frontières, égalité, environnement.
Une série multimédia interactive sur France Culture, notre compte Instagram et franceculture.fr.
6h57 sur France Culture, l'heure des matins avec Guillaume Herner. Bonjour Guillaume.
Mais bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous.
Et vous m'obligez à vous tenser, vous savez que c'est très mal d'être complotiste.
Oui, mais peut-être y a-t-il pire encore que d'organiser des complots, masquer la vérité au grand public. Voici un exemple, alors je l'ai brièvement évoqué hier, car je lui ai consacré un épisode de Superfell, j'y reviens, car il m'a sidéré, c'est l'histoire du choléra en Haïti, lequel de 2010 à il y a 3 mois a fait donc 10 000 morts et 800 000 malades, une estimation basse car beaucoup d'Haïtiens ont pu être malades sans le savoir ou le faire savoir ou bien encore mourir loin des centres urbains. J'en reparle car Haïti, c'est loin, c'est compliqué. Et surtout, on pourrait accroire que le choléra est une conséquence du tremblement de terre intervenu en 2010. Alors, voici ce que dit le professeur Pierre Roux, auteur du livre donc sur le choléra en Haïti. Les épidémies consécutives à des tremblements de terre sont en fait rarissimes parce que la plupart du temps, les ONG notamment, font bien leur boulot. S'il y a eu épidémie dans le cas d'Haïti, c'est donc parce que des casques bleus de l'ONU ont rejeté leurs fosses septiques dans un fleuve, alors que certains de ces casques bleus souffraient du choléra. Oui, mais voilà, l'ONU a tout fait pour nier cette évidence, trafiquant les informations et les cartes de propagation de la maladie. Et surtout, en utilisant un argument qui est une vraie figure de rhétorique des faussaires, et c'est cela qu'il faut retenir, notamment le multifactoriel. Souvenez-vous de cette notion, elle est absolument crucial par les temps qui courent. Si vous voulez nier une causalité, alors ici le rôle de certains casques bleus dans la propagation du choléra, ne vous épuisez pas à dire que c'est faux, contentez-vous de dire que c'est plus compliqué que cela. Le réchauffement climatique, par exemple, a été nié avec cet argument, c'est plus compliqué que cela, il y a différents facteurs, c'est plurifactoriel. Le choléra en Haïti, même chose, on n'a pas nié son importation, on a juste dit que c'était plus compliqué que cela, allant même jusqu'à inventer un choléra environnemental, une sorte d'épidémie inscrite, je ne sais pas moi, dans la culture haïtienne. Bref, l'ONU a menti délibérément, d'où cette conséquence, comment être cru ensuite, pourquoi s'étonner que les campagnes de vaccination soient si difficiles à mener dans certains pays en Afghanistan ou au Pakistan, comment s'étonner que le combat contre Ebola soit regardé avec tant de suspicion en RDC, chaque mensonge proféré fait le lit multifactoriel du complotisme.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et aujourd'hui, on va parler d'économie en compagnie de Daniel Cohen qui dirige le département d'économie de l'École normale supérieure. Mais en attendant, il est 7h, vous écoutez France Culture et je vous souhaite un excellent réveil.